se passe-t-il dans mon quartier ? Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez, sans trop le savoir finalement. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Est une série radiophonique de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2020 à Reims. Aujourd'hui, épisode 5. L'anniversaire du quartier Maison Blanche. Les actions de la fève et la guidance familiale. Durant toute l'année 2020, c'était l'effervescence à la maison de quartier Maison Blanche. Pensez-vous, en 2021, le quartier Maison Blanche aura 100 ans. Un anniversaire de centenaire, cela se prépare. Nous sommes allés à la rencontre des bénévoles et de l'équipe de la maison de quartier l'été dernier. Et dans leur jolie salle de théâtre et de cinéma, car à la maison de quartier Maison Blanche, ils ont cette chance, ils nous ont tout expliqué. Enfin, tout. Une émission entière n'y suffirait pas.
Moi, je m'appelle Sylvie Brun, je suis coordinatrice sur la maison de quartier Maison Blanche et donc avec plusieurs bénévoles, nous avons mis en place un projet dans le cadre de la politique de la ville qui s'appelle Maison Blanche déjà 100 ans.
Bonjour, alors moi je m'appelle Nadia Villaume, je suis bénévole à la maison de quartier sur plusieurs activités. Et donc là aussi, je participe, si vous voulez, à l'activité pour les 100 ans de la maison de quartier. Voilà.
Il faut savoir qu'au niveau de l'origine, les premiers indices qu'on a mettant en place des habitations sur le quartier Maison Blanche, le premier écrit, c'est une annonce publicitaire de l'Office d'habitation populaire à Bon Marché qui faisait une publicité pour faire un concours pour créer la cité jardin. Et elle date du 24 février 1921. Donc d'où on approche des 100 ans. Et Nadia, qui est avec nous là, participe, mais elle est aussi à l'origine presque du projet, puisqu'elle fait partie également du conseil de quartier, et tout est venu de là.
Alors du coup, je vais vous laisser nous expliquer comment vous avez eu cette idée, pourquoi. Est-ce que déjà vous êtes habitante du quartier ?
Je suis habitante du quartier depuis 1973. Mais je connais quand même le quartier Maison Blanche depuis l'âge de 3 ans parce que ma grand-mère y habitait déjà. Donc là, le projet m'est venu comme ça parce que, comme vous a dit Sylvie, je fais partie du conseil de quartier. Et le conseil de quartier avait pour objectif de mettre dans tous les quartiers de la ville de Reims ce qui s'appelle des totems. Et des totems avec un parcours du patrimoine, si vous voulez. L'objectif, c'était, si vous voulez, de montrer un petit peu partout les sites qu'on pouvait voir dans chaque quartier. Donc, moi, j'ai fait des recherches. Et ce que j'ai fait, donc, un parcours du patrimoine que j'ai donné à un conseil de quartier qui avait été validé, bon, avec le confinement, voilà. Et quand Sylvie m'a dit qu'on allait faire quelque chose pour le quartier Maison Blanche, j'ai proposé ce que j'avais déjà fait avec le conseil de quartier, donc le parcours du patrimoine et l'origine aussi. Hein. Donc, pourquoi on appelle Maison Blanche déjà ? Alors, vous savez, le cocher, enfin, qui venait, il y avait des relais de poste, hein, qui venait d'Épernay. La première chose qu'il voyait en arrivant d'Épernay, il y avait une maison blanche. Donc, il criait Maison Blanche. Et c'est comme ça qu'est venue déjà l'origine de la maison de du quartier Maison Blanche. Donc, en 1919, Charles Roche fit appel à George Burdett Ford, architecte urbanisme américain, pour la reconstruction d'une douzaine de cités-jardins, ce qu'on appelait le plan Ford, ici. Hein. Il demanda la construction de 600 logements, mais la moitié seulement a été réalisée par l'architecte Edmond Herbe. Tout autour, c'était organisé autour de la place du Souvenir. Si on pouvait regarder du haut, on voit que ça fait un peu comme une étoile. Et les rues ont été baptisées, vous avez vu, avec des noms de villes. Et tous les noms de villes, c'est par rapport à tous ceux qui ont participé à la construction de Maison Blanche.
Au niveau de la mise en place sur le quartier, il y a plusieurs étapes. Première étape où c'est les maisons en pierre. Après, on a une construction vers les années 50 qui vont être des constructions toujours de maisons et le début de certaines barres d'immeubles. La structure dans laquelle on est, maison de quartier, et le reste des bâtiments essentiellement collectifs sont après 1962. Une bénévole nous a ramené un journal de l'Union du 12 mai 1962 où l'on voit la photo, une photo aérienne. Donc on a bien tout ce qui est immeuble devant l'avenue d'Épernay, mais nous n'avons pas encore les immeubles de la rue Normandie. Et l'école est construite, l'école Avranches, le groupe scolaire Avranches est construit. Le centre commercial Place de Lisieux est réalisé. Par contre, la maison de quartier n'est pas encore réalisée. Donc voilà, pour moi, ça va être entre 62 et 65 les dernières constructions. Et donc, avec tous ces témoignages, je dirais, on a eu une profusion de photos, de recueils et tout ça. Pour une première restitution à ce niveau-là, sur le 12 septembre. Donc on a cette partie témoignage.
Donc la restitution prendra quelle forme ?
Alors, exposition de tout ce qu'on a pu récupérer. Donc il y a beaucoup de documents originaux qu'on met sous verre. Mais également la possibilité aux gens de venir mettre un petit commentaire. On va créer des petites bulles, comme les bulles des BD. Où les gens, s'ils veulent venir, oh ben par exemple, j'ai la photo de ma classe, regarde, il y a monsieur Trucmuche qui est là. Et comme ça, un petit souvenir en direct, donc sous forme expo. Au niveau des témoignages, une personne est venue en disant, moi je veux bien donner mon témoignage, mais ce que j'aimerais bien, c'est la mettre en scène.
Voilà.
Et donc, Nadia et cette autre personne sont parties pour mettre en scène, voilà, quelques témoignages sous forme humoristique. Et donc, ils vont faire une sorte de petit théâtre de boulevard pour faire des micro-scénettes, donc à partir des témoignages. Le projet s'entend, il y a également une partie vidéo, jeux vidéo. C'est-à-dire qu'avec l'association CEDO, des habitants et l'association CEDO ont construit et réalisé un jeu vidéo en 3D du quartier qui va permettre aux gens de pouvoir découvrir le quartier en s'amusant et aux plus jeunes de pouvoir aussi avoir quelques témoignages.
Ils vont adorer.
On a une petite jeune fille qui a fait les parties narratives pour présenter les endroits un peu plus emblématiques du territoire, donc avec une petite historique intégrée dans le jeu. C'est vraiment assez sympa. Et puis, en même temps, nous avons toujours avec l'association CEDO qui sont en train de faire un film un peu témoignage sur le quartier, film reportage, pour représenter aussi le quartier et rencontrer les quelques personnes pour donner leurs opinions sur le quartier. Il y avait une autre étape qui était où on devait réellement recueillir la parole de l'habitant et en faire un recueil de témoignages. Là, je pense que cette partie-là se mettra réellement en place qu'à partir de septembre.
En
mode porte-à-porte ?
En mode porte-à-porte, voilà. Et donc toujours par des bénévoles qui vont rencontrer des habitants du quartier. Et c'est vraiment un projet pour moi qui fait partie des habitants, qui doit leur appartenir à part entière. Nous, on est là pour faciliter.
Alors le projet n'est pas encore terminé, mais il a déjà bien avancé manifestement.
Il avance bien.
Ça représente combien de bénévoles approximativement pour l'instant, qu'on donnait des photos, qu'on prêtait des choses, qu'on fait des recherches?
Alors, en don, je suis à plus de 50 personnes qui ont apporté des documents. En recherche et en action propre, je veux dire propre, c'est-à-dire qu'ils sont là régulièrement pour mettre en place et puis pour développer le projet. Il y a des actions donc, où ils vont avoir passé entre 10 heures et sur la réalisation de la maquette, je pense qu'on est déjà sur 50 heures de réalisation. Donc pour moi, à l'heure actuelle, on doit être aux alentours de près de 200 heures de bénévolat. Sur
c'est
le projet.
C'est quand même un gros travail.
Tout en étant confiné. Donc avec presque 3 mois sans intervention. Je trouve que les gens répondent très bien. Voilà. Il faut savoir que ce projet, effectivement, est à l'initiative donc, d'un groupe de bénévoles pour les 100 ans. Mais il fait suite à, 5 projets qu'on avait déposés dans le cadre de contrat de la politique de la ville, pardon. Ça a commencé par des bulles dans la tête, qui était un projet pareil de témoignage, qui avait été transformé en petite BD. La suite donc a été Maison Blanche en virtuel, qui était la construction de cette fameuse maquette qui fait 11 mètres sur 4. Où les écoles du quartier ont participé, les bénévoles et les seniors avaient également participé. Il y a eu les 3000 logements que vous voyez à l'heure actuelle sur le quartier sont représentés sur la maquette. Et on a eu le jardin l'année dernière, les 2 années qui sont venues, donc qui contribuent également à la reconnaissance du quartier Maison Blanche très vert. Parce qu'on voit la cité jardin par elle-même, mais même au sein même des collectifs, il y a beaucoup d'espaces verts sur le quartier Maison-Blanche. Et donc l'ambition est vraiment de mettre un accent sur cette verdure qu'il y a sur le territoire. Et donc avec le Maison-Blanche naturellement vivant, on a mis en place effectivement ce petit jardin. Et puis donc, les 100 ans, comme les 100 ans arrivent tranquillement, on y arrive.
Voilà. Oui, comme une évolution.
Il y a une évolution. Je vous dis, les premières prémices, c'est mars 1921. Et je crois que les premières maisons réellement réalisées, si je ne me trompe pas, il me semble, elles datent de 1925.
C'est 1925.
Du coup, il me reste 4 ans pour... refaire des choses.
Alors nous, pour l'instant, on est sur cette, on arrive sur les 100 ans. Pour nous, on voulait mettre un petit accent sur le fait que le territoire par lui-même arrivait sur les 100 ans. Ça venait en appui sur ce que demandait le conseil de quartier. On trouvait que c'était très logique de continuer là-dessus. Mais effectivement, c'est vraiment, si on veut faire l'anniversaire de la première maison, on aura encore 4 ans pour pouvoir continuer.
Pour terminer, le planning a été un peu bousculé ces derniers temps. Mais on a parlé de cet événement le 12 septembre. Et est-ce qu'il y a d'autres dates fortes qui sont déjà calées ou est-ce qu'il faut attendre un peu ?
Non, je pense que sur le début décembre, on va être réellement sur une autre phase de restitution. Après, franchement, c'est au rythme des gens. Peut-être qu'on va rebondir encore sur notre recueil de témoignages. Si réellement les gens ont juste eu le temps de recueillir les informations, comment on va les mettre en place. Pareil, c'est au rythme des bénévoles, c'est au rythme des gens. On ne bouscule personne, c'est chacun va à son rythme. Et là, on est bien parti, on a déjà de la matière. Donc je pense qu'on peut faire plaisir à plein de monde. Non, il y a vraiment de très belles choses qui vont faire pleurer dans les souvenirs. Très émouvant.
Depuis des années, la FEV poursuit son action. L'engagement des jeunes et l'engagement parental dans la réussite éducative. Mais la FEV, c'est surtout des centaines de jeunes bénévoles qui contribuent à un projet social qui vise à lutter contre toutes les formes d'inégalité qui frappent les quartiers populaires. Un projet qui favorise un mieux vivre ensemble. Nous leur avons ouvert les portes de nos studios au printemps dernier.
Je suis Pierre D'Alberto, délégué territorial à la FEV, donc en charge de l'ensemble de l'action de la FEV sur le pôle de Reims.
Alors merci d'être avec nous dans les studios aujourd'hui. Si on a invité la FEV, c'est pour parler de trois projets que vous êtes en train de mener cette année. Mais avant de parler de ces projets, on veut bien savoir ce que c'est que la FEV, que veut dire cet acronyme, et puis un petit peu d'histoire.
Rapidement, la FEV, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville, donc qui a été créée en 91 et qui a pour objet la mobilisation de jeunes, et principalement des étudiants, dans des actions de citoyenneté et de solidarité dans les quartiers populaires. Et donc le fondement de cette action, de ce projet, c'est de pouvoir rapprocher notamment le monde étudiant du monde des quartiers et créer des ponts, des passerelles entre deux jeunesses qui ont peu ou pas l'habitude de se côtoyer et de les faire grandir ensemble. Voilà, donc c'est une action d'apprentissage et d'éducation populaire par les pairs. Voilà.
C'est une association nationale ou vous n'existez qu'à Reims ?
Cette asso, elle est présente sur tout le territoire national, donc dans une cinquantaine de villes universitaires en France. Ça représente à peu près 400 villes.
Donc l'antenne rémoise est tout près de la faculté de lettres et de droit de Reims.
Exactement.
On peut donner l'adresse, hein, sera fait.
3 allées des Coquilles, voilà, juste en face du campus Croix-Rouge.
Ça représente combien de personnes sur Reims, la FEV, que ce soit au niveau des salariés, des bénévoles, il y a peut-être d'autres statuts également ?
Oui, si on fait un peu le tour de tous les engagés de la FEV, donc il y a déjà une équipe de salariés, on est 3. Il y a également des volontaires en service civique, donc une vingtaine chaque année, voilà, depuis quelques années maintenant. Et puis on accueille également des bénévoles, donc qui sont 200 à peu près chaque année. On va monter à 300 à partir de septembre 2020. Et puis on a également voilà, des jeunes qui s'engagent sous d'autres formes de colocation, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard.
Alors, les projets maintenant, les projets que vous avez pu réaliser cette année et plus spécifiquement donc ceux qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle politique de la ville. Il y en a plusieurs à la FEV. Je te laisse nous dérouler tout ça.
La première, c'est l'action de mentorat, c'est-à-dire qu'on met en relation 2 heures par semaine des étudiants bénévoles avec des enfants qui présentent des fragilités dans leur parcours scolaire, des enfants qui sont orientés par l'éducation nationale, parce que la FEV est association complémentaire de l'école publique. Et cette action, elle se passe au domicile des enfants, tout simplement parce que ça nous permet aussi d'avoir une action d'aide à la parentalité pour des parents qui sont, par exemple, non francophones, qui ont des difficultés à suivre la scolarité de leurs enfants. Nos bénévoles, ils peuvent intervenir, leur montrer comment on fait, comment se déroule la scolarité en France. Et tout simplement, nos bénévoles, comme ils sont aussi passés par les bancs de l'école quelques années avant les élèves qui peuvent accompagner, ça leur permet aussi de leur transmettre voilà, toutes les codes, toutes les clés de réussite autour de la scolarité. Et puis cette action, elle permet aussi de faire découvrir la ville aux enfants, aux étudiants, toutes les ressources culturelles et ludiques qui peuvent exister, tout simplement parce que beaucoup d'étudiants déjà, les bénévoles sont néo-rémois, néo-étudiants aussi d'ailleurs. On a beaucoup d'étudiants qui sont en première année d'enseignement supérieur et qui découvrent la ville, qui viennent d'arriver à Reims. Et les enfants, certains enfants des quartiers, ont peu ou pas accès aux ressources culturelles et ludiques de la ville. Et grâce à l'étudiant, ensemble, ils vont pouvoir aller découvrir un petit peu tout ce qui se passe pour eux à Reims.
Donc on parle par exemple d'établissements comme les médiathèques, ce genre de lieux ?
Oui, médiathèques, musées, monuments historiques. On les incite beaucoup aussi à aller voir des spectacles. Donc on a des partenariats forts avec la Comédie, le Manège, Nova Villa, voilà, qui sont des acteurs culturels forts à Reims et qui nous envoient régulièrement des invitations pour pouvoir aller assister à une programmation de spectacles diverses et variées. Voilà, on essaie de voir et de proposer un petit peu tout ce qui existe, pas exclusivement sur le champ de la jeunesse aussi. Des fois, il peut y avoir des choses uniquement pour nos bénévoles. pour un public adulte. Et puis également des événements sportifs aussi, pourquoi pas, qui peuvent se dérouler dans la ville.
Alors, on a dit que vous étiez installé dans le quartier Croix-Rouge. Est-ce que cela sous-entend que tous les jeunes qui profitent de ce mentorat sont sur Croix-Rouge ou au contraire, vous vous rendez dans différents quartiers?
L'action de la FEV, elle a un petit peu explosé dans toute la ville, mais la très grande majorité de nos actions se fait dans les quartiers politiques de la ville. Donc, on a Croix-Rouge, Wilson, Europe, Orgeval, voilà, ces principaux quartiers-là, un petit peu Châtillon aussi. Et puis on est également sur la géographie de l'éducation prioritaire, donc on travaille avec 7 collèges en éducation prioritaire sur toute la ville.
Ça représente combien de jeunes qui sont suivis en mentorat? Alors peut-être 2020, c'est un peu tôt peut-être pour avoir des chiffres, mais vous devez avoir une petite idée par exemple pour l'an passé.
Comme on est sur une action individuelle, c'est-à-dire un étudiant pour un enfant, si on prévoit 2 à 300 étudiants bénévoles, ça fera 2 à 300 enfants accompagnés.
Ces enfants sont souvent suivis sur plusieurs années ou c'est plutôt sur des temps très délimités?
La particularité de notre action, c'est qu'on essaie de la flécher déjà sur 2 ans. On s'est rendu compte qu'un an, ça pouvait être trop court pour certains enfants qui gardent des fragilités à l'issue d'un an d'accompagnement. 3 ans, on peut créer une dépendance de la part de l'enfant, de la famille. Et comme l'un des objectifs, c'est de viser l'autonomie de l'enfant et de la famille face à la scolarité, 2 ans, c'est le bon calibre. Et en plus, si ces 2 ans peuvent être articulés sur les périodes charnières, comme grande section de maternelle CP, ou CM2 6e, ou tout ce qui est 3e, et puis entrer au lycée, par exemple. Voilà, donc c'est encore mieux parce que ça nous permet de lever des fragilités sur ces périodes-là.
Peut-être maintenant aborder une autre action donc qui concerne, si je ne dis pas de bêtises, des volontaires qui sont en résidence à la médiathèque. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle des volontaires? Et puis après, que font-ils dans les médiathèques?
On a un binôme de volontaires en service civique qui interviennent à la médiathèque Croix-Rouge à hauteur de 12 heures par semaine et qui vont proposer des ateliers découverte de la lecture pour les grandes sections de maternelle et les CP, qui sont accompagnés par des bénévoles de la FEV, mais aussi plus largement au grand public qui peut fréquenter la médiathèque. Cette action, elle vise à lutter contre l'illettrisme, parce qu'on s'est rendu compte que dans de nombreuses familles, le livre était complètement absent. C'est-à-dire que des enfants arrivent en CP sans jamais avoir ouvert un livre, pour différentes raisons. Et du coup, l'idée, c'est de les faire venir à la médiathèque, leur faire découvrir le livre et la lecture à travers des ateliers surtout très ludiques. Voilà, et donc nos volontaires vont proposer ce type d'atelier-là à destination de ces enfants.
C'est en temps périscolaire, du coup?
Oui, c'est en temps périscolaire. La plupart du temps, c'est le mercredi. Il y a également aussi des visites qui sont organisées pour les bénévoles, pour les enfants, pour les familles, tout au long de l'année. L'idée, c'est de pouvoir aussi permettre à ces familles de s'inscrire à la médiathèque, de leur montrer comment on peut emprunter les livres. Et toute la particularité d'avoir des volontaires de la FEV, c'est que ce sont des jeunes qui sont déjà repérés par les familles, qui sont déjà identifiés par les familles, là où la médiathèque peut parfois faire un peu peur. Enfin, et en plus, c'est eux qui le disent, ça peut être un endroit un peu institutionnel, un peu impressionnant pour des familles. Et l'idée d'avoir un jeune qui est déjà là, qu'ils connaissent sur place, ça leur permet voilà, de pouvoir s'imprégner et s'approprier les lieux plus rapidement.
Troisième action à présent, c'est pareil, on parle d'une action qui a déjà débuté, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est l'action de volontaires en résidence. Donc cette action, elle concerne toujours des volontaires en service civique qui vont s'engager 12 heures par semaine au sein des collèges en éducation prioritaire pour mener 3 types d'actions. Donc la première action, c'est l'encadrement d'heures du dispositif Devoir fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Devoir fait rapidement, c'est du soutien scolaire proposé au sein même de l'établissement, donc pendant le temps scolaire. Et donc nos volontaires en service civique encadrent un certain nombre d'heures. La deuxième action, elle a une dimension plus citoyenne et plus environnementale, c'est-à-dire que nos volontaires en service civique vont accompagner les collégiens qui ont envie de porter des projets à dimension citoyenne, environnementale ou solidaire aussi, au sein de l'établissement, notamment à travers le conseil de la vie collégienne ou les éco-délégués par exemple. Et donc comme au sein de l'établissement il existe peu de personnes ressources adultes en capacité de pouvoir accompagner les élèves à monter un projet de A à Z, nos volontaires en service civique les accompagnent justement à pouvoir construire l'ensemble de ces projets-là au sein de l'établissement. Et donc la troisième action que nos volontaires sont amenés à faire, c'est une aide à l'orientation. L'idée, c'est de pouvoir accompagner des élèves qui auraient des difficultés à pouvoir trouver un stage, par exemple en troisième. Il y a toutes les démarches qui sont faites au sein de la classe avec les adultes référents. Mais une fois qu'on arrive à la maison, on a parfois des parents qui ne sont pas en capacité de pouvoir aider leurs enfants à trouver les stages, se rendre en entreprise, se présenter, etc. Et donc là, nos volontaires en service civique, ils sont là pour faire ce lien-là, cet accompagnement-là, mais aussi mettre en réseau ces jeunes-là en dehors du quartier. Beaucoup d'élèves ont des difficultés à sortir de leur quartier, à trouver des stages en dehors de leur quartier. Souvent, ces jeunes-là aussi ont des difficultés à trouver des stages parce que leur entourage est aussi en précarité. Voilà, on est dans des établissements où 80% des jeunes ont au moins un parent au chômage. Normalement, en troisième, quand on trouve son stage, c'est souvent chez le voisin, la tata ou, ou des gens très proches. Mais quand tout l'entourage est au chômage, c'est très compliqué. Donc, nos volontaires en service civique sont aussi là pour faire du réseau, reconnecter ces jeunes-là au réseau de la Fève, aux bénévoles de la Fève, qui, eux, peuvent avoir un tonton ou un voisin ou une voisine qui est en capacité de proposer un stage.
Donc, sur ces actions, on voit qu'il y a donc beaucoup de volontaires, et tu l'as dit au début, hein, il y a un nombre... C'est impressionnant, de volontaires en service civique à la Fève. Oui. Je pense qu'on peut en profiter. Peut-être qu'il y a des jeunes qui pourraient être intéressés pour rejoindre la Fève aussi bien en tant que volontaire qu'en tant que bénévole. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des prérequis?
Le seul prérequis, c'est d'avoir entre 18 et 25 ans et surtout avoir l'envie de s'engager dans une action d'intérêt général, de vouloir porter les valeurs de l'association. Et puis surtout, avoir envie de faire des belles rencontres, parce que la FEF, c'est avant tout ça, c'est à la rencontre des habitants, des étudiants, faire la promotion de l'engagement. Et donc, c'est très simple, il suffit de nous contacter. On a régulièrement nos annonces de volontariat en service civique qui sont publiées sur le site de l'agence de service civique. Donc voilà, en tapant AFEV et Reims dans les mots-clés, on nous trouve très facilement. Et pour l'action de mentorat, ce qui peut être intéressant aussi pour certains étudiants, c'est que de plus en plus, les établissements d'enseignement supérieur reconnaissent et valorisent cet engagement-là dans les cursus. Donc, par exemple, Sciences Po, dans le cadre du parcours civique, les étudiants peuvent faire 75 à 80 heures d'engagement bénévole chez nous. Au sein de l'URCA, par exemple, il y a les unités d'enseignement transversales dans certaines maquettes, donc qui permettent aux étudiants, voilà, pour ceux qui auraient une petite appréhension à devenir bénévole, à pousser la porte, ben voilà, il y a une sorte de petite récompense au bout, c'est que l'université reconnaît votre engagement et toutes les compétences que vous allez acquérir dans votre parcours universitaire. Donc ça peut être un réel plus et ça peut même vous faire gagner quelques points peut-être à la fin du semestre.
Avant de se quitter, tu as parlé rapidement en disant que tu nous en dirais peut-être quelques mots, donc ça serait de bénévoles ou de volontaires qui peuvent se trouver en immeuble.
En colocation. Projet solidaire.
Voilà, ça serait bien quand même d'en dire quelques mots.
Mais oui, effectivement, dans le quartier Croix-Rouge, sur le secteur Croix du Sud, on a 12 jeunes, et bientôt 20 d'ailleurs, on est en train de développer ce projet-là, 12 jeunes qui vivent en colocation dans 4 appartements, donc ils sont 3 par appart, et qui ont pour objet de mener des actions de rencontres entre voisins. Donc ils font vraiment des actions micro-locales à l'échelle de l'immeuble, de la cage d'escalier. Et donc plusieurs fois par mois, ils peuvent organiser des petits événements, des petits temps de rencontre. Donc ça va être des choses comme faire un goûter partagé, lire des livres, organiser un tournoi FIFA ou un petit barbecue, c'est déjà arrivé aussi. Ils viennent aussi donner des coups de main régulièrement aux maisons de quartier sur des événements un peu plus importants. Et avec plus d'habitants. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on est, dans une relation de voisin à voisin, de jeune engagé qui vit dans le quartier, qui vit la même chose que les publics, entre guillemets, qu'ils peuvent accompagner. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'ils sont vecteurs de tout ce qui se passe dans le quartier auprès de leurs voisins. Tout simplement, quand, je vous l'ai dit, il y a une fête des voisins qui est organisée, Très souvent, les habitants ne sont pas forcément bien informés et donc ils peuvent aussi être un peu ambassadeurs de tout ce qui se passe auprès de leurs voisins, ce qui permet de les mobiliser plus facilement. Aussi, quand il y a des réunions publiques qui vont décider du sort de l'immeuble dans 3 ans. Voilà, il y a aussi ces contraintes-là et nos capseurs, c'est comme ça qu'on les appelle, jouent tous ces rôles-là. Voilà.
Eh bien, je te remercie. Pour se dire au revoir, est-ce que tu aurais une petite phrase ou peut-être qu'il y a un slogan officiel à la FEF pour donner aux jeunes envie d'aller à votre rencontre ou de s'engager?
Eh bien, si les jeunes ont envie de s'engager chez nous, ça sera pour être utile contre les inégalités.
Que se passe-t-il dans mon quartier ? La guidance familiale. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Un rendez-vous avec l'équipe de la sauvegarde nous permet de mieux comprendre cette action de prévention. Une action de prévention qui a pour objectif d'accompagner des parents en difficulté dans leur rôle éducatif. Nous avons rencontré une des membres de l'équipe de la sauvegarde cet été au foyer Gabriel Perry.
Stéphanie Dion, moi je suis chef de service à la sauvegarde de la Marne depuis un tout petit peu plus de 10 ans. Auparavant, j'étais éducatrice spécialisée aussi à la sauvegarde sur un foyer de garçons, une MEX. Donc aujourd'hui, je suis chef de service à la fois d'une MEX qui accueille 14 garçons adolescents, qui est le foyer Gabriel Péri à Tinqueux, et je suis aussi responsable de la guidance familiale, jusqu'alors qui existait sur Reims et Châlons, et qui s'étend aujourd'hui à Épernay, et puis il y a aussi un poste sur Vitry-de-François, dont je ne suis pas responsable, mais qui est aussi un poste de guidance familiale.
Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la guidance familiale, mais on va déjà faire un retour arrière sur ce qu'est la sauvegarde, parce qu'en plus, quand on parle de ce type de structure, on utilise beaucoup d'acronymes qui ne sont pas forcément compréhensibles pour le public. Donc aujourd'hui, on est dans le foyer Gabriel Péri à Tinqueux. Peut-être revenir sur le rôle de la sauvegarde et puis nous expliquer un peu comment fonctionne le lieu où on se trouve, par exemple.
Alors, la sauvegarde de la Marne, c'est une association qui existe déjà depuis longtemps, qui œuvre dans la protection de l'enfance avec différents pôles. Donc, on est donc ici sur le foyer Gabriel Péri, on fait partie du pôle hébergement qui comporte en tout 3 foyers d'adolescents, 2 foyers qui accueillent des garçons, 1 foyer de jeunes filles et 1 foyer sur Besanne qui accueille des enfants plus jeunes. Qui est mixte celui-là. Sur le pôle hébergement est rattaché aussi les ateliers pédagogiques d'insertion qui permettent d'accueillir des jeunes qui sont soit en décrochage scolaire, soit au-delà de 16 ans, qui ne sont pas tout à fait prêts à entrer en apprentissage et qui ont besoin de se former, d'avoir un rythme de travail. Alors on a différents ateliers, dont un restaurant pédagogique que certains connaissent qui se trouve près de la butte Saint-Nicaise. Ensuite, sur l'association, donc on a ce qu'on appelle un pôle milieu ouvert, avec le service principal sur Reims, et puis des services sur Châlons, Épernay, qui s'étendent jusque Vitry-le-François, qui rayonnent dans l'ensemble de la Marne. Ensuite, sur ce pôle est rattaché aussi tout ce qui est accueil des mineurs isolés. Alors, donc sur Châlons et sur Reims, qui est aujourd'hui aussi un gros service. On a un pôle à lui tout seul sur Sainte-Ménéhoulde, qui est le centre éducatif fermé, qui accueille là aussi 12 adolescents, garçons et filles, mais uniquement dans le cadre du pénal. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur la sauvegarde, on a une habilitation justice. Donc on est dans la protection de l'enfance et on a aussi une habilitation pour accueillir des jeunes qui sont sous l'article 45 au pénal. Je n'ai pas précisé, mais sur le milieu ouvert, ce sont tout ce qui est intervention à domicile, en fait. Donc voilà pour l'ensemble des services de la sauvegarde et se rattache aussi à tous ces services qui existent depuis déjà longtemps, des projets politiques de la ville. On a notamment aussi un service de prévention sur Vitry-le-François.
On a parlé de mineurs isolés par exemple et puis du centre qui peut se trouver à Menoux. Du coup, le profil des jeunes qui peuvent avoir besoin d'un coup de pouce de la sauvegarde, c'est parfois un très gros coup de pouce, durant leur vie, est en fait très, très divers.
Ah oui, très divers, puisque on est dans la protection de l'enfance. Donc effectivement, ça peut être des jeunes qui arrivent sur le territoire français mineurs sans papier, tout comme ça peut être effectivement des enfants dont la famille a des grosses difficultés, où il y a des carences éducatives, ou parfois de la maltraitance, qui peuvent être confiés à nos structures. Et puis, je vous dis, il y a aussi tout ce qui est aide à domicile, qui permet aussi de ne pas avoir besoin d'en passer par un placement, mais qui permet aux familles d'avoir un coup de main dans l'éducation des enfants.
Donc, vous avez parlé de guidance familiale.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement guidance familiale, même si les termes donnent des petites indications ?
Alors, on est principalement en guidance familiale dans le soutien à la parentalité. L'objectif est de pouvoir accompagner des familles dans les difficultés rencontrées dans l'éducation de leurs enfants, principalement, enfin de leurs enfants, puisqu'à partir du moment où on intervient en guidance familiale, on intervient pour l'ensemble de la fratrie. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les parents au bénéfice de l'ensemble des enfants qui vivent à domicile. La particularité est que on est dans un système de libre adhésion. Donc rien n'est contractualisé avec la famille, ce qui leur permet dès le départ de savoir qu'elles peuvent arrêter cet accompagnement à tout moment si elles le souhaitent. Chose qui n'arrive quasiment jamais. En tout cas, pas de cette façon-là. On n'a jamais de famille qui nous dise « bon, j'en ai marre, on arrête ».
Comment vous rencontrez les familles? Comment elles sont amenées vers vous?
Alors, en fait, le projet spécifique, on ne va pas, nous, directement aller à l'encontre, enfin, la rencontre, pardon, des familles. On est sollicité, en fait, par un tiers qui connaît bien la famille. Alors, ça peut être l'AS de secteur, ça peut être un assistant social d'établissement scolaire, ça peut être un référent famille de maison de quartier. On travaille aussi beaucoup avec la réussite éducative, le DRED, donc ça peut être aussi par ce biais-là. Voilà, des gens qui connaissent à la fois la guidance familiale et qui vont à un moment donné recueillir auprès des familles les difficultés rencontrées et qui vont leur proposer un accompagnement éducatif à domicile dans ce système de libre adhésion en leur expliquant aussi que les objectifs de travail, on va les fixer avant tout avec eux. Voilà, c'est vraiment les parents qui vont se mettre au travail avec la professionnelle qui va intervenir et l'objectif, c'est vraiment de faire les choses ensemble et de ne pas leur imposer les choses.
Alors concrètement, comment ça se passe? C'est quelqu'un qui vient? Quel est le profil de ce professionnel? Qu'est-ce qu'il propose? Comment les choses se mettent en place?
Donc une fois qu'on a rencontré la personne qui nous a sollicité pour la famille, on fait déjà un point ensemble pour voir si ça correspond bien à de la guidance familiale. À partir de ce moment-là, donc c'est reproposé à la famille en leur disant s'ils sont, voilà, en leur demandant s'ils sont toujours d'accord. Et à partir du moment où c'est OK, la professionnelle, alors je dis là parce qu'aujourd'hui on n'a que des femmes dans ce service-là, mais ça va peut-être changer, la professionnelle prend attache avec la famille, les rencontre une première fois et réexplique un petit peu la façon dont elle travaille, en expliquant bien que voilà, on va réfléchir ensemble à ce qu'on souhaite travailler, à ce que la famille souhaite mettre au travail là où elle est en difficulté avec ses enfants. Elle va expliquer que ces heures d'intervention, ces temps d'intervention, elle va leur proposer, elle va les réfléchir avec eux aussi, sachant que l'autre particularité de la guidance, c'est de pouvoir intervenir à des moments clés de la vie de famille, c'est-à-dire ça peut être tôt le matin, ça peut être en soirée, ça peut être au moment du coucher des enfants. Ça, c'est aussi intéressant puisque c'est des temps où, en règle générale, les interventions à domicile ne se font plus. Quand on est après 20h, en général, il n'y a plus d'intervention à domicile. Et nous, on propose de pouvoir travailler aussi sur ces temps-là si c'est des moments de tension au sein de la famille. Donc voilà, on laisse vraiment un champ assez libre à la famille, en partant avec eux vraiment de leur ressenti, de ce qu'eux voudraient voir changer. On essaie aussi d'aller chercher leurs compétences, là où ça fonctionne aussi, parce que souvent, un peu engluées dans les difficultés, elles oublient qu'elles ont aussi des choses à la maison qui sont plutôt positives, des compétences, des choses des fois qu'il suffit de réactiver. Et puis, au fur et à mesure des observations aussi de la professionnelle, on va être amené à peut-être travailler d'autres aspects de ce qui se passe à la maison. À l'heure d'aujourd'hui, les professionnels sont principalement des TISF, CESF aussi, ça peut être moniteur éducateur.
Alors TISF, c'est quoi?
Ah oui, pardon. Travailleuse en intervention sociale et familiale.
D'accord.
Voilà.
Ça représente combien de personnes sur l'agglo?
Alors, aujourd'hui, on a deux personnes sur Reims, une personne sur Chalon, et jusqu'alors, il y avait une personne à mi-temps sur Vitry-le-François. Là, je suis en plein recrutement, puisque on a des financements supplémentaires. On va passer à 3,5 postes sur Reims. On garde un poste sur Chalon, il y a une création de poste sur Épernay. Donc, il va y avoir aussi une intervention sur Épernay, et le mi-temps sur Vitry-le-François passe à temps plein. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que chaque professionnel accompagne en même temps 10 familles.
10 ? 10.
C'est
beaucoup.
Ça peut paraître peu parce qu'en milieu ouvert, on est plutôt une trentaine de familles par professionnel. Maintenant, là, comme on est dans quelque chose quand même d'assez intensif, 10, c'est déjà pas mal. Hein, parce que, il faut quand même réussir à caler du temps pour tout le monde. Alors l'avantage, l'objectif aussi, c'est de pouvoir rendre les familles ensuite autonomes. Donc l'avantage, c'est que quand on a des nouvelles familles, en même temps, souvent, on a des familles qui sont en fin d'accompagnement. Et ça permet aussi d'être moins présente, parce qu'il faut savoir, il faut préparer le départ aussi. Quand on est comme ça à domicile de façon intensive, on prend de la place, l'air de rien. Et il faut aussi apprendre à se retirer progressivement pour que la famille devienne autonome. Donc ça permet aussi sur les derniers mois, d'être moins présent sur certaines familles et plus présent sur les nouvelles familles.
Est-ce qu'il y a une durée type d'accompagnement ou est-ce que c'est vu au cas par cas selon les besoins des familles ?
On est sur une durée de 18 mois maximum. Maintenant, ça peut être moins si ça ne nécessite pas 18 mois d'accompagnement. Voilà. Mais en y réfléchissant avec les financeurs, on s'était mis une limite de 18 mois parce qu'en même temps, 10 familles, c'est pas énorme non plus sur l'ensemble... pour Reims, par exemple, sur l'ensemble du Grand Reims. Donc ça permet aussi qu'il y ait quand même un turnover et qu'on ne reste pas, parce que certaines familles, on pourrait y rester beaucoup plus longtemps, je pense. On pourrait toujours trouver des choses à travailler, donc ce n'est pas l'objectif non plus. L'objectif étant bien aussi de préparer notre départ et de passer les relais nécessaires à un moment donné pour que la famille sache aussi sur qui s'appuyer en cas de difficulté. Savoir aussi frapper à la bonne porte, ça fait aussi partie de notre travail. On ne travaille pas non plus en vase clos avec la famille. L'objectif, c'est aussi de travailler avec les partenaires et de les amener à s'ouvrir aussi sur l'extérieur. Et comme je disais, de savoir à quelle porte frapper en cas de difficulté.
Alors, quels sont les types de personnes qu'ils peuvent aller voir justement après ?
Alors, on travaille bien sûr avec les circonscriptions, principalement avec les AS de secteur, les maisons de quartier, c'est important aussi de pouvoir. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans les maisons de quartier, tant pour les enfants que pour les parents. Socialiser aussi les parents, parfois, ça fait partie de notre travail. Je parlais tout à l'heure de la réussite éducative. J'ai envie de dire c'est divers et varié selon les besoins de la famille, mais effectivement tout ce qui est autour du soin aussi, ça fait aujourd'hui partie aussi des axes principaux de travail, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de défauts de soins dans certaines familles, par méconnaissance, ils ne se rendent pas toujours compte de l'importance d'un suivi médical, etc. Donc des fois de soins psychologiques aussi pour les enfants. Alors ça, c'est des liens qu'on peut faire, c'est des choses qu'on peut observer et mettre en place pendant la guidance familiale, qui vont perdurer après notre départ, pour le coup.
Est-ce qu'après votre départ, vous avez des retours ? Alors, je parle des retours positifs, en tout cas de familles qui souhaitent juste donner des nouvelles. Il y a des choses qui sont comme ça, ou est-ce qu'il est plutôt décidé à un moment d'arrêter le contact et de...
Non, souvent les familles, dans les premiers mois après l'arrêt de la guidance, il y a des nouvelles, il y a des coups de fil, il y a encore des demandes de conseils par téléphone parfois, il y a même des invitations à prendre un petit café, on n'est pas complètement fermé, au contraire, c'est toujours intéressant aussi d'avoir... Puis ça permet des fois de rediriger sur les bonnes personnes, quand il y a un peu de flou à un moment donné. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, nous on a mis un outil en place qui est un tableau de suivi, qui permet aussi de voir un petit peu le travail effectué, qui permet aussi de faire un point à 6 mois et 1 an après la mesure. Enfin, la mesure, comme c'est pas contractualisé, c'est pas vraiment une mesure, mais après l'accompagnement, pour voir un petit peu où en sont les familles, si ça a fonctionné, ou si à l'inverse, pouvoir évaluer aussi le rôle de la guidance. Les retours sont plutôt positifs dans l'ensemble. Je ne vais pas vous dire que c'est à 100% de réussite, parce que je vous mentirais, mais c'est plutôt positif.
Ça représente combien de familles sur le Grand Reims ? Enfin, en tout cas, comme c'est politique de la ville, je suppose que c'est sur les quartiers politiques de la ville de Reims.
Sur les quartiers prioritaires. Alors, je vous dis, jusqu'alors, on avait 2 professionnels sur Reims, donc c'était 10 familles à la fois. Donc, sur une année, on est à une trentaine de familles en général, puisqu'on a quand même... Les 3/4 des familles, on va jusqu'aux 18 mois d'accompagnement. Donc, le turnover n'est pas si important que ça sur une année. Alors depuis la création de la guidance, on avait fait le calcul, on a eu plus d'une centaine de familles quand même qui ont été accompagnées par la guidance. Les auditeurs, si à un moment donné, ils pensent à la guidance familiale pour une situation particulière, c'est peut-être de se rapprocher ou de l'AS de secteur ou au niveau du DRED, surtout de la réussite éducative, s'ils connaissent, puisque on est en lien et que le projet quand même à partir là de septembre, ça serait de pouvoir aussi, pour que ce soit plus simple, que les demandes passent toutes par des saisines réussite éducative. Hein. Donc voilà, j'ai envie de dire. Bon, après, au niveau de la sauvegarde, il y a un site où il y a mes... Voilà, on peut aussi nous contacter si vraiment... Je pense qu'on peut me retrouver sans trop de difficultés.
Ben, merci beaucoup.
When I go, don't cry for me. In my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to him who will raise the dead up. It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away.
Fin de l'épisode 5, et donc de notre avant-dernier rendez-vous. Le dernier épisode de la série d'émissions « Que se passe-t-il dans mon quartier ?» nous emmènera à Unicité, nous fera aussi faire du vélo, puis nous proposera une pause toute naturelle. Suspense, suspense, à bientôt.